Bonjour à toutes et à tous, on est sur un long week-end encore, donc c'est vrai que les chaises sont un peu vides. Je ne sais pas si vous savez, mais il est sorti la nouvelle Bible de la montagne, pour les montagnards, pour ceux qui aiment la randonnée. Donc si jamais ça vous dit, vous pouvez la commander, je vais baisser un petit peu. La Bible des montagnards. Luc, il m'a fait la joie de dire une phrase par rapport au chant que nous avons chanté, c'est « demander ». Quand tu demandes, tu reçois. Et ça va être un petit peu dans cet ordre d'idées ce matin. On fête ce week-end l'événement de Pentecôte, biblique. Hein, et c'est d'abord une fête juive, c'est la fête du don de la Torah. Voilà, c'est d'abord une fête juive. Mais pour nous, chrétien, c'est une fête chrétienne célébrée le septième dimanche après Pâques pour commémorer. Ça tient pas. C'est qui a acheté ce... Donnez-moi des noms. J'y suis là. Ouais. Faut surtout y aller en douceur avec. Pour commémorer le don du Saint-Esprit aux apôtres ainsi qu'à tous les disciples de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, de la Triunité, Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus avait fait la promesse suivante, il avait dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, la Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après la mort et la résurrection de Jésus, les apparitions de Jésus, son ascension au ciel, lorsqu'à la Pentecôte, les disciples ont reçu cette puissance du Saint-Esprit, leur vie tout entière a été transformée. On a chanté la transformation ce matin. Je ne vais pas rentrer dans les textes liés vraiment à la Pentecôte, mais vous allez voir, on va y arriver. En fait, les plus trouillards d'entre eux se mirent tout à coup à prêcher. On voit Pierre qui a renié Jésus, se met devant la foule à prêcher dans les Actes des apôtres. Il se met à prêcher l'évangile, à parler de Jésus. L'évangile fut annoncé ce jour-là, ce fut le départ, le commencement de l'Église. Donc Pentecôte, c'est pas rien, c'est le départ de l'Église, avec un grand E. C'est là que ça, tout a commencé. C'est pour ça que ce matin, on est là, parce que c'est le départ de l'Église. Et en fait, tous reçurent le Saint-Esprit, en tout cas tous ceux qui étaient là, qui acceptèrent la prédication de Pierre, reçurent le Saint-Esprit, et l'Église a commencé, et ils commencèrent à vivre finalement une vie qui dépassait les exigences de la loi de Moïse, de l'Ancien Testament. On est dans le nouveau là. Ils se mirent à partager leurs possessions, ils s'aimaient les uns les autres. Ils communiquaient la paix, la joie à ceux qui les entouraient. Parfois, il y en a qui étaient emprisonnés et chantaient les cantiques quand ils étaient en prison. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais, j'ai envie de dire, mais attention, malgré toutes ces transformations, hein, ils n'étaient pas devenus des gens parfaits. Ils n'étaient pas parfaits pour autant. En fait, une vie transformée, oui, mais ils avaient encore des défauts. Mais Pentecôte, égale vie transformée, quand même. Pentecôte égale vie transformée. Leur vie était transformée, encore loin d'avoir atteint la perfection, c'est clair. Et les lettres de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe en sont la preuve, que les chrétiens n'étaient pas des gens parfaits. D'ailleurs, nous allons ouvrir la deuxième lettre aux Corinthiens ce matin. Cette lettre que Paul a écrite, c'est une belle lettre, une épître, on appelle ça une épître. Alors l'épître, ce n'est pas la femme de l'apôtre, hein, je le dis toujours, mais... C'est une lettre. Hein. Et Paul ouvre son cœur à une église qui avait beaucoup de, on va dire, de soucis relationnels, de problèmes, de difficultés. Finalement, des pratiques aussi assez désastreuses pour une église du 1er siècle. On pourrait dire quand même. Je dirais quelques siècles plus tard, quand la ferveur, etc., a diminué, bon, on peut s'attendre à ce que cette communauté, ces groupements de gens croyants puissent déborder, faire un petit peu n'importe quoi. Mais là, c'est une église du 1er siècle. Et certains de cette communauté doutaient aussi du ministère de l'apôtre Paul. Ils doutaient de lui. En fait, ils doutaient de son appel. C'est une église qui préférait, on va dire, les beaux parleurs. Ceux qui savaient bien s'exprimer, mais dont le fond n'était pas là. Et finalement, l'apôtre Paul lui-même le dit, il avoue d'ailleurs dans une de ses lettres qu'il n'a pas un grand talent oratoire, c'est pas un grand prédicateur, mais c'est un enseignant et il avait le fond. Et au travers de ce qu'il a écrit dans cette lettre, on perçoit un peu mieux ce qu'est un serviteur de Dieu après la Pentecôte. On s'aperçoit un petit peu mieux ce qu'on appelle un chrétien. Alors en fait, cette lettre nous encourage en tant que membre d'une église locale à y voir un petit peu plus clair dans notre parcours, dans notre désir d'être au service de Dieu, dans notre désir de partager l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui les entourent. Parce que c'est ça finalement le but de l'église. Et l'idée principale que nous recevons le Saint-Esprit, c'est de pouvoir communiquer. Le Saint-Esprit communique avec ceux qui nous entourent. Alors, tous les chemins de vie sont différents. Le tien est différent du mien. Ici, on a, je ne sais pas, on est combien dans cette salle ce matin, une trentaine. On a 30 parcours de vie différents. Tous les chemins de vie sont différents. Et on entend des témoignages différents. Chaque chrétien a son parcours, sa découverte, sa rencontre avec le Christ, qui lui est propre, qui lui est personnel. Dieu s'est adressé à toi différemment de moi. Il y a toujours des différences, même si parfois on peut avoir des similitudes dans notre rencontre. Mais il y a quelque chose de différent, quand même. Mais quand même, il reste un point commun. On est tous différents, on a tous des chemins différents, mais il y a quand même un point commun, c'est la croix. Parce que la croix, c'est une folie, dit la Bible, pour les hommes. Et nous y avons cru. Nous y avons cru, tu y as cru. J'y ai cru. Tu as cru à cette croix qui était là dans l'histoire et devient, finalement, qui devient, puisque tu y as cru, finalement, ça va t'aider à te transformer. Parce que cette croix, le fait d'y croire, tu vas recevoir cet esprit qui vient de Dieu. Et ça va transformer ta vie. Qui aime le tennis ici? Roland Garros, qui le suit, non? Ah, je savais, je suis sûr que tu allais lever la main. Deux, ouais, genre là. Bon, moi, pas trop. Vous connaissez Marie Pierce. Désormais posée ses valises à l'île Maurice, où elle mène aujourd'hui une vie consacrée à Dieu. Marie Pierce est la dernière Française à avoir remporté le tournoi de Roland-Garros. Si elle n'a jamais annoncé officiellement sa retraite, la championne a toutefois arrêté sa carrière en 2006. Depuis, elle s'est installée donc à l'île Maurice et elle revient chaque année à Paris à l'occasion des internationaux de France, où on peut la voir dans les gradins de la tribune présidentielle. Entre deux matchs, Marie Pierce s'est confiée au Parisien, au journal Le Parisien. Elle revient sur sa nouvelle vie. Alors si elle ne joue plus, elle n'a pas abandonné pour autant le tennis. Elle a aujourd'hui 39 ans, elle entraîne deux jeunes joueurs. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Ce qui me plaît, parlant de ces deux jeunes, ce qui me plaît, c'est cette famille dont je suis très proche. Les gens croient souvent qu'il s'agit de mes propres enfants parce qu'ils me ressemblent un peu. Leur maman est une très bonne copine à moi, on a le même âge. Je le fais parce que je les aime. Ensuite, mon but est de faire en sorte qu'ils exploitent leur potentiel au maximum, elle dit au quotidien. Cependant, aujourd'hui, ce n'est plus le tennis qui occupe la place la plus importante de sa vie, mais sa foi. Depuis que j'ai connu le Seigneur en l'an 2000, ma vie a complètement changé, et seulement en bien, explique l'enseignant. Voilà. Il va falloir mettre ça sur l'ordre du jour. Ouais, c'est bon. Alors elle dit, J'ai connu le Seigneur en l'an 2000, ma vie a complètement changé, seulement en bien. Elle a trouvé une paix et une joie intérieure, grâce à Jésus-Christ. Maintenant, dit-elle, ma vie est entièrement consacrée à lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui, qu'il s'agisse d'un entraînement ou d'une œuvre caritative en Afrique, déclare la joueuse, qui précise toutefois vivre une vie tout à fait normale, sauf que j'ai une relation personnelle avec Jésus. Je prie, je lis la Bible, je vais à l'église, conclut-elle. Soit l'évangile transforme, soit ce n'est pas l'évangile. Même pour ceux qui, comme on dit, sont tombés dans la soupe hein, quand ils étaient petits, il y en a qui sont nés dans des familles chrétiennes, ils ont vécu dans ce contexte-là, ils ont appris certains réflexes, mais il faut qu'il se passe quand même quelque chose. Même s'il n'y a pas une transformation marquée, une transformation avec un contraste très élevé, comme ma conversion à moi, pour ceux qui savent, de passer de la délinquance à un chrétien qui va à l'église, il y a un monde. Hein, et quelque part, même ceux qui sont tombés dans la soupe étant petits, ont besoin, quelque part, de recevoir le Saint-Esprit. Je vais regarder avec vous un certain nombre de transformations maintenant, que l'apôtre Paul détaille dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5. Je vais vous les lire. C'est des versets 16 à 21. Voilà ce qu'il dit. « Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine, même si, autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière humaine. Maintenant, nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. » Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Car par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui sans tenir compte de leurs fautes. Il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nos péchés, afin que par lui, nous ayons part à l'œuvre salutaire de Dieu. Nous vous en supplions. L'apôtre Paul supplie les gens autour de lui qui ne connaissent pas Christ. Il les supplie, il leur dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». Le texte commence par le verset 16. « Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. » Selon la chair, selon la chair. En fait, lorsqu'on regarde les gens, selon la chair, selon une manière purement humaine, nous les regardons. Comment ? Grand, moyen, petit, avec des barbes, sans barbe, avec des cheveux longs, les cheveux courts, noir, blanc, jaune, bleu. Bon, c'est les schtroumpfs. On les regarde comment ? De quelle manière tu regardes les hommes quand tu n'es pas dans cette dynamique de relation avec le Saint-Esprit. En fait, on les regarde aussi selon leur origine sociale. Celui-là, il est chauffeur de bus. Celui-là, il est chauffeur de taxi. Celui-là, il est peintre en bâtiment. Celui-là est musicien. Celui-là, ouf, il est haut placé. On les classe aussi par la religion. Celui-là, celui-là, il est prêtre. Ou celui-là, il est pasteur. Où il est évêque, où il est imam. Le grand danger, c'est de regarder les hommes et les femmes de cette terre selon les yeux charnels, d'une manière purement humaine. En fait, dans la Bible, Dieu dit « Je ne juge pas de la même manière que vous. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les hommes classent les gens. Ils classent les gens dans toutes sortes de catégories. Nous avons tendance à classer les gens, à les mettre dans les tiroirs, dans les boîtes, et les étiqueter. Dieu ne regarde pas les choses comme ça. Il regarde le cœur. Mais attention, il ne regarde pas le cœur aussi de la même manière que nous le regardons. Parce que nous, nous regardons au cœur en disant, « Ah ben lui, il est sympathique. Ah ben lui, putain, hein, il est altruiste. Hein. Oh là là, c'est quelqu'un qui a... Oh là là, il est vraiment sympa. Hein. » Il est gentil ou il est méchant. Le cœur, Dieu regarde le cœur et la seule chose qu'il distingue quand il regarde notre cœur, ici ce matin, c'est ce que soit nous sommes des fils d'Adam, charnel, c'est-à-dire des fils physiques, des fils de nos parents, soit nous sommes des enfants de Dieu. Et on ne peut pas être les deux en même temps. Ou plutôt, on peut être les deux en même temps, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Soit il voit les hommes et les femmes uniquement issus de la vie charnelle, de nos parents, charnels, humains, soit il voit des hommes et des femmes issus de la vie spirituelle, nés de Dieu, vivant pour Dieu, ayant la vie de Jésus en eux, ayant reçu le Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Premier changement opéré par l'Évangile, c'est un autre regard sur les gens. La première des choses qui est transformée dans nos vies, c'est notre cœur. Soit nous avons un cœur qui a reçu le Saint-Esprit, soit nous avons un cœur qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et Dieu nous regarde comme ça. Il ne dit pas, lui il est méchant, lui il est sympa, lui c'est bon, lui ça va à peu près. Bon, lui, il va falloir qu'il fasse des progrès. Non, non. Même si ça lui fait plaisir de voir les gens gentils, de voir des gens sympathiques, il est heureux de voir les gens comme ça. Il est bon. Et il est bon pour lui de voir des personnes bonnes. Mais ce n'est pas comme ça qu'il regarde les gens. Avant de recevoir l'Esprit, le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient issus de la vie physique. Ils comprenaient les choses de Jésus, tout ce qu'il disait, mais de manière très limitée. Il a fallu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour commencer à comprendre les choses, commencer à développer une vraie sagesse. Ils ont été transformés dans leur façon de vivre, mais aussi dans leur façon de voir la vie, je dirais même dans leur façon de regarder les autres. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Nous ne voyons plus de manière charnelle. On regarde les gens différemment lorsqu'on vient à Jésus. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, c'est assez radical. Oui, la classification que fait le Nouveau Testament des gens, elle est très claire. C'est soit on est réconcilié avec Dieu, soit on ne l'est pas. Soit on est né de nouveau, né de Dieu, de l'Esprit, on a reçu l'Esprit de Dieu, soit on ne l'a pas reçu. Il n'y a pas de... C'est soit l'un, soit l'autre. L'explication de tout ça est donnée dans la lettre de Paul, toujours aux Éphésiens, au chapitre 2. Alors ça écorche un petit peu, mais c'est une réalité spirituelle. Il dit, autrefois, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, par ces actes, parce que physiquement, nous faisons des actes physiques. Le problème, ce n'est pas les actes pour Dieu. C'est que notre problème, c'est nous. C'est comme un arbre. Quand il porte de mauvais fruits, tu peux soigner les fruits. Mais c'est l'arbre qu'il faut soigner. Tu peux passer l'insecticide, etc. Mais si la racine de l'arbre est pourrie, ben, ça ne va pas. Tu vas essayer de soigner les fruits pour rien. Il faut soigner l'arbre. Et le Seigneur, Dieu, il est venu pour soigner la racine de nos maux, de nos problèmes, de nos difficultés. Il n'est pas venu soigner les fruits. Bien sûr que les fruits, ça l'attriste. Quand je suis méchant, quand je mens, ou quand je fais des bêtises, ou... Ben oui, c'est sûr. Il est mécontent. Mais ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est d'où ça vient. Et ça vient de quelque chose qui est très enfoui en nous. Et il le dit, l'apôtre Paul, il dit, « Nous aussi, nous faisions autrefois partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est peut-être mieux de prendre cette décision que celle-là. Mon raisonnement me dit qu'il vaudrait mieux aller dans cette direction. » Et il continue en disant, « Aussi étions-nous par nature destinés à subir quelque part la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » Parce que Dieu se détourne du péché. Ce n'est pas une question de colère comme nous, nous nous mettons en colère, mais comme lui, il l'est. C'est-à-dire qu'il se détourne de ce qui ne lui ressemble pas. Alors, j'ai envie de poser des questions, j'aime bien poser des questions. Comment nous regardons les gens qui nous entourent? Avec des « waouh » en fonction de la couleur de leur peau, de leur taille, de leur place dans la société, des intérêts qu'ils pourraient nous procurer. Dieu regarde à une seule chose. Sont-ils réconciliés avec moi? Où sont-ils encore mes ennemis? ont-ils reçu ma vie en eux? Ont-ils intégré ma vie en eux? Est-ce que le Saint-Esprit vit en eux? Cet aspect, mes amis, et là c'est pour ça que je reviens sur ce qu'a fait la proposition qu'a fait Luc à la fin, en disant qu'on doit demander. Et Jésus, dans Luc, nous dit ceci. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui où nous devons encourager les gens à demander le Saint-Esprit. Et comme je le disais au début, la lettre aux Corinthiens nous invite aussi à porter nos regards sur notre parcours. Et dans cette lettre, ce qui est frappant, finalement, c'est la manière dont Paul se regardait lui-même. S'il se regarde selon la chair, humainement parlant, il avait d'énormes capacités, l'apôtre Paul. Il le dit. « Je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. » Et puis après, Paul fait un descriptif de ce qu'il est, de ce qu'il était avant Jésus, avant de recevoir le Saint-Esprit, avant d'avoir reçu cet esprit, l'esprit de Jésus. En l'occurrence, il respectait la loi. Il respectait la loi. Vous savez, quand Jésus a parlé à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème était un religieux. On aurait pu dire, oui, mais comment il faut que je rentre au rayon de Dieu? Ben, il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment? Il faut que je rentre encore dans le sein de ma mère et puis que je ressorte? Ah non, non, il faut que tu naisses d'esprit. Et il dit ça à un religieux. De manière à ce qu'on ne puisse pas dire, ouais, ouais, ça va. Si c'était un voleur, un brigand sur la croix, par exemple, un des deux brigands, Jésus aurait parlé comme ça au brigand, on aurait dit, ouais, mais ça va, ça ne me concerne pas, ça concerne un brigand. Non, non, il s'adresse à un religieux. Et l'apôtre Paul fait partie de ces gens-là, des religieux qui suivent la loi. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas. Enfin, ils essayent en tout cas, ils font leur maximum pour plaire à Dieu. Et lui, il est en train de dire, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère maintenant comme une perte. Je vais même plus loin, dit-il. Tout ce en quoi je pourrais me confier, c'est-à-dire force physique, intellectuelle, réussite sociale, religieuse, statut, capacité, tout ça, je les considère comme une perte à cause du bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tout ce qu'il faisait, son pédigré, son curriculum vitae, son parcours spirituel, même les choses, on va dire, les plus nobles aux yeux des hommes. Ce que tu pourrais imaginer de quelqu'un, dire, mais ce gars-là, voilà, Mandela, voilà, tu vois, le gars, il a fait vraiment, il a eu un parcours de vie extraordinaire, il a fait des choses fantastiques. Même ça, ce parcours-là, il le considère comme une perte à cause de Jésus-Christ. Si vous venez à Christ, si vous recevez le Saint-Esprit, votre regard sur les gens autour de vous va changer, autant que votre regard sur vous-même. Tout ce qui va venir va être nouveau. Question, avez-vous le Saint-Esprit? Voulez-vous avoir le Saint-Esprit? Le Seigneur le dit, lui-même, Jésus le dit lui-même. Vous devez le demander. Ça se demande, c'est quelque chose qui se demande. Je ne suis pas en train de vous faire le coup du changement, c'est maintenant. Hein. Ce n'est pas mon truc. La Bible, elle va au-delà de ça. Le changement, c'est maintenant, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais, quelque part, c'est un cadeau. La possibilité de repartir avec le Saint-Esprit promis par Jésus. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, parce que finalement, il faut reconnaître que nous ne sommes pas si bons que ce que nous en avons l'air. Hein? On n'est pas des gens spécialement super. On sait qu'en nous, il y a parfois des choses qui nous déplaisent, des colères qui sont là, de la haine, de la jalousie. Et tout ça, nous l'héritons, malheureusement, nous l'héritons depuis des générations, comme dans notre ADN, c'est là. Mais si donc mauvais comme vous l'êtes, donc, vous savez donner de bonnes choses quand même à nos enfants, parce que nous sommes mauvais, mais nous savons aussi être bons. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et si tu demandais le Saint-Esprit ce matin ? Je te lis un autre verset de l'apôtre Paul, cette fois dans l'Épître aux Galates. Il dit « Il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. » On extrapole. Il n'y a plus de différence entre les Arabes, les Béninois, les Français, les Italiens. Il n'y a plus de différence entre les Blacks, les Blancs, les cadres, les ouvriers. Et la Bible continue « Il n'y a plus de différence entre esclaves et hommes libres, entre les hommes et les femmes. » Bon, il y a quand même des hommes et des femmes, hein. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Alors, non seulement l'Évangile transforme notre regard sur les gens, mais il nous donne quand même un fabuleux espoir sur le présent. Parce que c'est dans le seul milieu, le milieu chrétien, où j'ai pu voir des gens de toute catégorie, de toute nationalité, de toute couleur, de tout statut social, s'aimer, être assis à côté, chanter ensemble et avoir un même but dans la vie. C'est même étonnant pour certaines personnes. C'est même étonnant. Ils sont étonnés de ça. Alors, l'Évangile transforme notre regard sur les gens. C'est vrai qu'on le vit à des degrés différents de bonheur. C'est vrai. On n'est pas encore au ciel. Et Paul écrit au verset 17, « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien est disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. » Ainsi, si tu es uni au Christ, tu es déjà quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, tu es la même personne, mais améliorée, on va dire. Avec la capacité de pouvoir avoir une relation avec Dieu, avec la capacité de pouvoir dire non et de pouvoir aussi dire non à ce qui te pourrit la vie, mais en même temps de pouvoir dire « Oui, non, mais j'ai une relation avec Dieu. » Unis au Christ. Alors on reçoit un nouveau cœur, parce que l'Ancien Testament, vous savez, le nouveau accomplit l'Ancien. Dans l'Ancien Testament, il était promis un nouveau cœur. Jérémie. Ben, avec le Saint-Esprit, on reçoit ce nouveau cœur qui avait été promis. Unis au Christ par le Saint-Esprit, on reçoit ce nouveau cœur qui est annoncé par Ézéchiel. « Je vous mettrai en vous un cœur nouveau. Je changerai votre cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de chair. Afin que vous accomplissiez mes lois. » Alors, il y a un tas de choses qui se passent dans notre vie lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Dans la première lettre, non, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, l'apôtre Paul fait un condensé de ce qui nous arrive quand on devient chrétien. Et je me suis amusé à le mettre à la première personne du singulier. Écoutez bien ce que ça donne. « Loué soit Dieu, le Père de mon Seigneur, Jésus, le Christ, car il m'a comblé de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. » En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il m'avait choisi pour que je sois saint et sans reproche devant lui. Puisqu'il m'a aimé, il m'a destiné d'avance à être son enfant qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Quelle richesse ! Une adoption. Une adoption. On devient un enfant de Dieu parce qu'on reçoit l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Il nous adopte. Nous devenons ses enfants. Et lorsqu'il rentre dans notre cœur, il met à mort, finalement, l'ancienne nature. Et la Bible dit qu'il nous donne les arts de l'esprit. C'est le premier acompte. Vous savez, les arts. Quand tu vas acheter une télé ou je sais pas, tu donnes des arts pour réserver ce que tu as acheté. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne les arts. Et ça veut dire que tu t'engages. Tu t'engages à acheter. Et il nous donne les arts de l'esprit, les 10%. Le reste vient à la fin, c'est sûr. parce qu'il s'est engagé. C'est pas ton engagement qui compte, c'est le sien. Parce que mon engagement à moi, vous voyez bien, zéro. C'est son engagement qui compte. Et ça, c'est rassurant. Parce que quand tu as demandé à Dieu de te donner le Saint-Esprit, qui t'a donné le Saint-Esprit, que ta vie est transformée, elle n'est pas parfaite, il va y avoir des moments où tu vas être au 36e dessous, tes engagements au 36e dessous, mais c'est son engagement à lui qui compte. C'est fantastique, non? Parce qu'il a donné les arts de l'esprit. Les 90% qui restent, nous les aurons dans ce qu'on appelle la glorification. En fait, il y a trois étapes dans le salut. La première, c'est la justification. Je m'excuse d'employer des termes un petit peu techniques, mais vous allez vite comprendre, c'est très simple. Je vous déclare juste. Normalement, cette réalité se passe au moment où nous recevons le Saint-Esprit. Tu es déclaré juste. C'est-à-dire, à mes yeux, Dieu te dit, à mes yeux, Anne-Marie, à mes yeux, Georgette, à mes yeux, Marie, tu es déclaré juste. Je te déclare juste. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Tu es juste, tu as reçu mon esprit. C'est la justification. Quels que soient nos sentiments, quelle que soit notre perception du moment, quelle que soit ta perception du moment, tu es déclaré juste parce que tu t'es uni à Jésus. Tu es déclaré juste par Dieu, pas par moi. C'est pas pareil, parce que moi je déclare juste quelqu'un, c'est pas dit qu'il le reste, parce que je m'engage pas, tu vois. Mais lui s'engage, parce qu'il t'a donné 10% et il va te donner les 90% qui restent. Ce qu'il a commencé en toi, il va le finir. La deuxième étape, c'est un chemin. Un chemin, un parcours. Un chemin qui dure toute la vie, des fois difficile. Un chemin où parfois on se plante, on trébuche, on se trompe, on fait des erreurs. Mais ce qui est super, c'est que c'est un chemin. Et ce chemin, il donne à notre vie une orientation globale qui a un but. Il oriente notre vie. Ce n'est pas sur le fil du rasoir, heureusement, parce qu'on serait foutu déjà. Si on ferait les funambules sur un fil, on serait déjà tombé d'un côté ou de l'autre. Mais globalement, il donne à notre vie une orientation générale qui nous pousse à Jésus, qui nous pousse à demander pardon aussi parfois lorsqu'on fait mal. Et comme ça, il nous oriente. C'est un chemin. On appelle ce chemin le chemin de sanctification. C'est fou, hein? C'est dans ce chemin-là qu'il nous rend saints. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout du chemin, il nous transforme. La Pentecôte, c'est ça. C'est un commencement, mais c'est un chemin. Lorsque quelqu'un est uni à Christ, parce qu'il est en Christ, il est justifié. Il est adopté par le Père. Il change ta vie. Il la transforme. Il ne te laisse pas comme tu es. Et il le dit, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Alors il y en a qui pourraient dire, mais celui qui est uni au Christ n'a plus la même personnalité. C'est faux. Tu as toujours ta personnalité, un peu mieux, parce qu'elle est améliorée par les présences de l'esprit. Mais ta personnalité, ton toi, c'est toujours ton toi. Tu n'es pas dilué comme dans le bouddhisme. Le bouddhisme, quand tu meurs, tu es dilué, comme les Feralgans. Tu es dilué avec les autres, donc tu n'es plus toi. Mais avec le christianisme, c'est bien parce que tu restes toi. Dieu demande des comptes à toi, pas moi pour toi, ni toi pour moi, mais à toi. Alors ce qui se passe, c'est que on se dit parfois que celui qui est uni au Christ n'est plus atteint par les conséquences de ses péchés passés. Alors là, tu es uni à Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, donc tout ce que tu as fait avant, c'est fini. C'est fini. J'ai dit ça à... J'ai dit ça à un gars de la maison d'arrêt de Grasse, qui, converti, chrétien, avec des affaires qui l'ont suivi, il a été obligé d'aller purger sa peine. Ce que tu fais dans ta vie, ça te suit. Ton caractère, ce que tu hérites des bêtises que tu as pu faire avant, c'est pas parce que tu es chrétien que ça y est, tout est réglé. Si je voudrais extrapoler en disant les choses de manière assez choquante, je dirais, on ne confie pas la garderie à un pédophile converti. Comprenez ? Non, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On le fera peut-être jamais. Parce que c'est ça la réalité. On ne dit pas, on ne se marie pas en disant « il ou elle est en Christ, tout le passé, ce n'est pas grave, non ». Non, non, on ne dit pas ça. Il y a des choses qui restent. Il y a des choses qui restent. Jésus change, transforme, mais dans l'orientation d'une vie et dans la dimension de l'espérance. Avec la puissance de l'Esprit, les choses vont changer, c'est sûr, certain. Mais c'est dans une orientation de vie. Alors il y a transformation, car Dieu est dans notre vie. D'ailleurs, le verset 18 dit « Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » Dieu et les hommes sont en guerre. Ou plutôt, les hommes sont en guerre avec Dieu. Dieu dit « Je vous ai créé pour refléter ma gloire. » Et vous, vous dites « Je m'en fiche. » Dieu dit « Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur. » Et les hommes disent « Ah non, ça ne m'intéresse pas. » Dieu dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il dit ouais, « Cours toujours, tu m'intéresses. » Et ça s'appelle le péché. Et c'est mon attitude naturelle à moi. Je me regarde quand je dis ça. C'est l'attitude naturelle de chaque être humain. Et à cause de ça, nous sommes en guerre. Et il y en a qui disent « Oh, mais Dieu est amour. Peace and love. Il est amour, enfin. Il ne me rejette pas, il est amour. Hein. Il est amour, mais il a envoyé Jésus. Il est saint, aussi. Il est amour, mais il est saint. Ah mince, il est plus amour que saint. Non, non, il est autant saint qu'amour. Et il est juste. Il est autant saint qu'amour que juste. Et c'est là le problème. C'est que s'il est amour, tu es juste. Moi, je suis amour, j'aime mes enfants. Mais s'ils me cassent les pieds, je les punis. Je suis amour, je les aime tellement. Je donnerai ma vie pour eux. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il est amour, mais il est juste. Et il est saint. Et ça, c'est ça un problème. Parce que s'il est saint et que nous ne sommes pas saints, comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous savez, l'Évangile, finalement, que ces chrétiens ont accepté à la Pentecôte, ben c'est comme si vous voyez une foule attachée à des poteaux, vous savez, pour être fusillée, des poltrons d'exécution, et que vous avez les soldats qui lèvent leurs armes vers vous pour vous tirer dessus, et que le juge arrive et il dit, bon, quels sont les condamnés qui veulent que je prenne leur place ? Puis tout à coup, tu as des mains qui se lèvent, ah, moi je veux bien. Tu m'étonnes. Et c'est exactement ce que Christ a fait pour nous. Et je redis, hein, toi Georgette, toi Anne-Marie, toi Marie, toi José, toi Manu. En fait, depuis le jour où tu t'es uni à Christ, que tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus devant le peloton d'exécution. À partir de cet instant, par Christ, Dieu t'a éternellement réconcilié avec lui. On t'a détaché de ce poteau. On y a placé celui que le juge a envoyé et les soldats ont tiré sur lui. Ils ont tiré sur quelqu'un. Tu es libre. C'est pour ça que tu es éternellement libre. Parce qu'ils ont tiré sur quelqu'un. C'est payé. Il n'a pas payé, puis après il ne reprend pas. C'est payé. C'est ça l'Évangile. C'est peut-être illustré de manière simple, mais c'est ça. Vous, autrefois, dit l'apôtre Paul dans Colossiens, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qu'il a livré à la mort, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Amour ? Oui. Saint ? Oui. Juste, oui, justifié et saint. Vous voyez comme c'est, comme les choses sont finalement simples. Il a fait ça pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute, c'est-à-dire juste. Et il l'a fait par amour. Par amour. Alors, est-ce que ça t'intéresse, ça te branche? Combien ça coûte? Zéro. Il n'y a pas de clause illisible en bas de la page, t'inquiète pas. Le ministère de la réconciliation, finalement, c'est offrir à ceux qui nous entourent la perspective d'une vie avec Dieu, libérée de la culpabilité, libérée de l'hostilité envers Jésus, libérée avec une toute nouvelle orientation pour leur vie, jusque dans l'éternité. Et c'est ce que nous faisons, nous, à la Pentecôte. En fait, à la Pentecôte, on pourrait même se rappeler en tant que chrétien qu'on nous a fait un cadeau, que nous devons prendre soin, le traiter avec respect, considération. Et au verset 19, il écrit, Paul, qu'il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Au verset 20, il dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Invitation à quoi? Invitation à être réconciliés. Et ce que nous faisons ce matin, dans cette église, et j'espère que ça se fait dans d'autres églises, c'est de pouvoir proposer cette réconciliation et de se rappeler en tant que chrétien que nous avons cette réconciliation. Il n'y a rien de plus important que ça, finalement. C'est comme si tu voyais quelqu'un assis sur une bombe et que tu lui dises rien. Tout simplement. Tu lui dis rien. On ne peut pas être dans cette dynamique-là. C'est comme si tu voyais quelqu'un qui va manger un gâteau empoisonné et que tu ne lui dises pas. Tu lui dis alors, ça va, c'est bon? Ah, on est obligé de le dire. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Nous vivons un moment vraiment propice à la réconciliation. C'est pour ça que je me permets de le faire. Si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, si vous n'êtes pas encore uni à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas encore né de Dieu, je vous propose de ne pas partir d'ici sans l'avoir fait. Pour terminer, je vais vous lire les paroles de l'apôtre Paul qui vous adresse cette invitation. Certes, nous le disons, pas sous ces termes, mais le fond y est. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez, s'il y a un verset qui décrit l'évangile de façon théologique, c'est bien ce dernier verset de l'exposé, le verset 21. 15 mots dans l'original, 15 mots qui définissent l'œuvre de Jésus-Christ, 15 mots qui nous décrivent un plan parfait pour l'humanité, 15 mots qui s'adressent à moi, qui s'adressent à vous. 15 mots. Écoutez bien. C'est les derniers versets. Après, j'arrête. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je le redis, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Amour? Oui. Saint? Oui. Juste, oui. Il nous donne tout ça sur un plateau aujourd'hui. Je vais prier. Seigneur, merci parce que ta parole est claire. Ce que tu as fait, c'est très clair. C'est vrai, ça s'est passé il y a longtemps, mais 2000 ans après, il y a encore des personnes qui ont fait cette expérience de t'inviter à prendre place dans leur vie. Seigneur, je l'ai fait moi-même. Tu as changé ma vie. Et je te prie pour mes amis, mes frères et sœurs, ma famille, ceux qui ne te connaissent pas. Et je te prie vraiment de parler à leur cœur. Seigneur, tu ne demandes pas des adeptes à une religion. Tu demandes des gens transformés. Tu veux voir les transformations dans les cœurs. Et tu veux y participer. Seigneur, je te prie pour chaque personne, chaque cœur qui est dans cette salle, te demandant d'intervenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste pour vous dire, vous savez,